Les limites du genre, et je n'ai pas suivi certains de mes amis qui étaient prêts à monter sur les barricades pour les radios libres. Dès que j'ai entendu de la musique d'ascenseur dans la plupart des radios que j'entendais, je veux dire, quand j'ai vu des jeunes descendre dans la rue pour énergie, franchement, moi, ça ne me motive pas.
Moi non plus, mais quand même, les radios libres associatives, pas les privées, elles peuvent quand même jouer un rôle pour informer. Par rapport à la dépêche, en plus, ici.
Ça fait des années qu'on espère qu'elles vont jouer un rôle, et puis elles ne jouent aucun rôle, à part certaines qui sont très ciblées, très typées. C'est quand même c'est devenu une espèce de soupe musicale, ou bien, il faut bien le dire, c'est souvent fait par des gens extrêmement inexpérimentés et qui veulent imiter les journalistes de la télé ou d'ailleurs, et ils veulent faire leur petit bouvard, leur petit chancel, etc. Et du coup, bon, ben, ça n'apporte pas vraiment un son nouveau qu'on pouvait espérer.
Il y a la place quand même pour créer autre chose.
Mais oui, mais encore une fois, ça dépend de vous, si je puis dire, des uns et des autres, d'être écouté et d'être écoutable.
Toulouse, septembre 89. Témoignage d'animateur de Canal Sud.
Canal Sud, je connaissais par réputation, parce que dans le petit monde des radios libres, bon, quand même... On connaît les autres radios, et puis aussi parce que je me suis intéressé depuis pas mal de temps aux problèmes des prisonniers, des luttes des prisonniers, et je connaissais Canal Sud par l'émission TME, comme je pense beaucoup de gens connaissent ou ont entendu parler de Canal Sud par rapport à cette émission. Donc j'avais un a priori, disons, favorable, c'est pour ça que j'ai choisi Canal Sud de toute façon, c'est-à-dire que je pensais que c'était une radio qui effectivement avait une voix différente, où des gens qui n'avaient pas la parole pouvaient s'exprimer. Bref, une radio vraiment libre et une radio associative, bon, à l'image de celle où j'étais avant. Bon, quand je suis arrivé, ça a été un peu un choc, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage assez important entre ce que moi j'attendais de la radio, Canal Sud, bon, c'était mes fantasmes, d'accord, mais bon, ce que j'attendais donc de la radio Canal Sud et la réalité, et surtout entre, disons, les gens qui étaient partie prenante dans Canal Sud, qui étaient le plus investis dans Canal Sud, et ce qu'on entendait sur le 92.6 quand on allumait sa radio.
Aujourd'hui, c'est ma sélection, et celle aussi de Jamie. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a une autre émission de reggae sur Canal, c'est le mercredi soir à partir de minuit avec Aldo B, le DJ Aldo B.
Bon, en tant que radio, je trouve que depuis un certain temps, il y a une baisse de qualité qui fait que moi, je suis de moins en moins motivée pour et écouter Canal Sud et m'investir à Canal Sud. En même temps, c'est vrai qu'il reste... de très très bonnes émissions à Canal Sud, des émissions qu'on est certainement les seuls à faire sur Toulouse.
Nous on est payés, mais les autres ne sont pas payés, alors il faut peut-être penser à eux. Je ne vois pas du tout les pressions que l'on aurait parce qu'on assurerait la paie et les pensions en tant que grévistes. On ne fait que parler de l'histoire des jeunes de l'école du cadastre. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi la direction n'a pas l'air de se soucier si la paye tombe ou tombera pas. Et pourquoi nous, ici, on doit se démarquer par rapport à la direction. C'est bien la direction qui doit prendre la décision, c'est pas facile.
Bon, il y a quelque chose qui se passe. C'est bien que la presse soit là parce que l'événement il est très limité. Il n'a pas de portée. Il n'est pas retransmis. Et puis les salariés, les travailleurs, bon, mais ils sont face à des CRS ou face à un patron ou face à une situation où ils ont envie de prendre les gens à témoin, et puis ils n'ont pas moyen de les prendre à témoin, à part en défilant, en emmerdant les gens dans la rue. Bon, mais je crois que si on arrive à s'exprimer, et ce qui était bien, c'est que chaque fois où il y a eu des choses importantes, je crois que c'est vrai que Canal Sud était là. Bon, c'est important, et même le matin dans des pics de grève où il faisait très froid, bon, je crois que c'est ça qui est bien. Bon, ensuite il y a l'interview, et Bon, la formule magazine, enfin la formule qui se passe sur une heure, c'est bien parce qu'on a le temps de s'exprimer et puis de voir. Puis on n'est pas stressé, encore une fois, c'est pas 3 minutes, vous avez la parole et puis merci, au revoir. On a toujours l'impression dans ces cas-là d'avoir encore des choses à dire et puis de ne pas pouvoir les exprimer. Là, je crois qu'on a le temps de faire le tour de la question.
Mais je crois que cet outil est complètement vital aussi pour respirer, quoi, socialement, en fait.
Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une politique de programmation qui soit vraiment cohérente et qui permette de mettre ces émissions en valeur et d'en apporter d'autres, d'aller dans un certain sens. J'ai l'impression qu'on prend un peu ce qui arrive et... Bon, à partir du moment où c'est pas trop choquant, bon, on accepte, on enregistre et voilà, quoi. C'est un truc un peu de fonctionnaire.
Je sais pas, enfin, pour moi, il y a un grand mystère quand même dans Canal Sud, c'est la force d'inertie qu'a Canal Sud. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, à l'intérieur, à l'extérieur, je sais pas, il peut se passer n'importe quoi ou rien du tout, etc., Canal Sud existe toujours. Et ça, depuis que je connais Canal Sud, donc depuis à peu près un peu plus de 5 ans, bon, c'est toujours le cas, des tonnes de crises à l'intérieur, tout le monde qui se barre, des nouveaux qui reviennent... Bon, des tonnes de mouvements, bon, au niveau social, culturel ou politique, à l'extérieur, etc. Mais Canal Sud, j'ai l'impression, est hors du temps.
Voilà, il me semble que c'est un éternel recommencement et qu'en fait, il n'y a pas d'acquis dans cette radio, vraiment.
On a toujours l'impression que Canal Sud dérive, mais un navire à la dérive, ça s'échoue, par exemple. Canal Sud dérive, mais s'échoue jamais. Et ça, c'est...
Moi, je crois qu'il y a un marasme des radios associatives en général, et qu'à partir de là, Canal Sud, bon, c'est le petit épiphénomène en plus, mais c'est celui où on est en prise. Moi, ce qui me semble le plus grave, c'est par contre qu'il n'y ait plus personne pour utiliser cet espace de liberté. Il y a de moins en moins de gens qui utilisent cet espace de liberté, qui démissionnent, qui se disent, bon, ça nous prend du temps... oh, puis à quoi ça sert, en fait, ce genre de truc. Or, c'est quand même un des derniers... bon, je parle des radios associatives en général, mais surtout de Canal Sud dans ce cadre-là. C'est un des derniers endroits à Toulouse où on peut s'exprimer librement et on peut faire un peu ce qu'on a envie. Ça tient aussi peut-être à un problème de dépolitisation générale de la société, quoi, où en fait, on sait qu'on est dans une démocratie, on essaie de s'en persuader, alors tout le monde le dit. Et puis finalement, la liberté qu'on pourrait avoir dans ce genre de société, on s'en sert pas.
Le mouvement des radios libres, les mouvements associatifs, les radios pirates et tout ça, était un peu l'expression, au moins sur le terrain des médias, sur le terrain de la communication, d'un mouvement social qui existait dans les années 70, qui pratiquement n'existait pratiquement plus à partir de 78, et que les radios continuent à exister, puisque bon, il y a des gens qui se sont spécialisés là-dedans, et que les radios pirates, les radios libres, sans ce mouvement à la base, ce mouvement politique, idéologique, ce mouvement social, bon, les radios là étaient sur un fil avec rien dessous, quoi. Je veux dire que le contenu s'est petit à petit échappé.
J'ai pas participé à Barbe Rouge, puisque ça s'appelait comme ça, mais je savais que ça existait et j'ai été dans les locaux de Barbe Rouge parce que tout le monde savait que c'était une radio pirate et que donc il y avait de toute façon une sympathie, une envie que ça puisse se faire, que ça continue, etc. Donc même si j'y ai pas participé parce que ça me branchait pas du tout à l'époque, c'était important que ça existe et c'était important d'être solidaire, etc. Alors, que ça soit mieux que maintenant que c'est institutionnalisé, oui, sûrement, comme tout ce qui est interdit, c'est plus intéressant souvent de le faire, ne serait-ce que pour ça. Mais je ne sais pas si finalement les problèmes n'étaient pas les mêmes que maintenant. Parce qu'en fait, c'est communiquer qui est important et c'est pas de faire joujou ou de se dire merde, c'est interdit, c'est bien, je prends mon pied.
Canal Sud est une des plus anciennes radios libres toulousaines. Elle est née dans la clandestinité en 76 sous le nom de Radio Barbe Rouge.
tous les deux qui ont mis au point l'émetteur. Je me rappelle la première fois qu'on l'a essayé. C'était à la campagne où on faisait notre stage technique. C'est là où ils ont monté leur premier émetteur. Ils sont arrivés, on l'a essayé, ça a marché. Bon, alors, cri de joie, on était fous. On se sentait très puissant.
Et justement, pendant ce week-end technique, on n'avait aucune idée du nom de la radio qu'on voulait donner. Et on cherchait tous, plus ou moins. Et durant ce week-end technique, on est tombé sur la bande dessinée du pirate Barbe Rouge. Alors, comme on a trouvé ça rigolo, on a décidé ça.
On avait entendu parler de l'Italie, et des radios, et de la faille législative, juridique, que les Italiens avaient trouvée. Et comme on était sûrement en manque de, comment dire, d'action, c'était un bon coup, quoi, de travailler dans ce sens.
On passait notre temps à se balader avec cette antenne.
Pas tellement de faire de la radio parce que c'était impossible, parce que c'était brouillé. L'important c'était de continuer à émettre, qu'il y ait de temps en temps quelques gens qui entendent, mais surtout de se rendre sympathique à toute une partie de la population. Alors il nous fallait faire des cours.
Les brouilleurs de cru. Mais voilà, c'est frustrant parce que tu prépares un truc long et t'en as que pour 2 minutes et crac, après même pas, fou, ça y est, alors là, t'entends plus rien. Alors là, il fallait déménager, partir ailleurs.
C'était en
77.
77. Hein, 77. Et bien, nous avons gardé pendant 48 heures sans bouger. Sous une tente, l'émetteur.
Voilà, Arlette, moi-même, les femmes ont gardé l'émetteur.
Les hommes étaient appelés à des tâches plus nobles, mais nous gardons l'émetteur.
Entre autres, se faire embarquer par les flics.
À chaque poste d'émission, il y en avait 3. Tu avais un élu du Parti Socialiste qui devait être présent avec voilà, sa carte d'élu, l'écharpe et tout, quoi. Comme ça, on était tranquille avec les flics.
Ça se passe extrêmement rapidement, je veux dire que par exemple, moi je me retrouve avec un micro branché plus nulle part et je continue à parler dedans sans m'apercevoir qu'il est plus branché nulle part. Et donc tout le monde, je ne sais pas, une vingtaine de personnes, les conseillers municipaux, gens de la radio commencent à ramasser le matériel, tout ça, etc. Cachent ça dans les classeurs de la mairie, le parti au grenier, tout ça. Puis voilà, et on descend, effectivement, les gardes mobiles. Les gardes mobiles avaient complètement coupé le village en deux, encerclant le café, la poste et bon, un petit peu le centre du village avec, la mairie.
On a racheté à nouveau un émetteur plus puissant de 40 watts, comme le premier qu'on nous avait pris. Et la radio s'est installée dans des locaux. Rue Saint-Rome, presque au Capitole, où on avait créé en même temps une association qui avait pour but de donner des locaux pour tous les gens qui avaient envie de se réunir, qui n'avaient pas de locaux. Et la radio s'est installée là.
Radio Barbe Rouge, now.
This is the end.
La fin du monopole d'État sur les messages radio. Dans la sale guerre des ondes, sous les tirs de brouillage de France Inter, notre hélicoptère géant décolle tous les soirs, du lundi au vendredi. Base de départ, 3941 rue Saint-Rome, ouverte à toute personne en civil. Heure de mission de 19h à 22h30, heure locale. Coordonnées téléphoniques 220185. Fréquence 88,2 MHz sur FM. changement de code de l'opération sera Radio Barbe Rouge.
Ah ben le changement, il a été radical dans le dans notre mode de vie, c'est-à-dire que quand on faisait une émission ponctuelle d'une heure avec un petit magnétocassette qui était posé sur un toit de bagnole, ça nous prenait pas trop la tête, quoi. Ça nous masquait aussi le fait qu'on n'avait pas trop grand chose à dire. Quand quand on est passé au stade d'un studio fonctionnant de façon permanente, bon, qui a été un truc assez compliqué, c'est-à-dire qu'il a fallu transformer une partie du lieu, bon, qui était donc l'ADEL, où entre autres il y avait eu Radio Barbe Rouge. Il a fallu aller chercher un émetteur en Italie, ça c'est moi qui suis allé le chercher. Là on s'est retrouvé à la fois face à une tâche complètement éreintante, parce qu'en fait, on était un noyau faible pour assurer 5 soirées d'émission par semaine. Et en même temps, on s'est retrouvé face au fait que c'est pas si facile d'avoir quelque chose à dire.
Moi, j'ai complètement cette impression, même quand j'avais participé, disons, à la première plaquette, à la première plateforme de cette radio, je m'étais inspiré, parce que je conserve tous les documents, de la première plaquette de Libé. Et à la rigueur, je dirais que ça rejoignait la même chose, le même souci, avec plusieurs années de retard. C'était le même genre, on lirait la plaquette de Libé, je l'ai encore. C'était la parole au peuple, on parlera des luttes, on parlera des opprimés, on ne parlera que de ça. On les fera parler, surtout, on les fera parler. On ne veut pas des spécialistes qui soient ce tampon qui va filtrer l'information et la présenter de façon déformée. C'est les gens qui participent à la vie sociale, aux luttes, qui vont parler.
On avait ce mythe populiste de faire parler le peuple, quoi.
Ça s'est avéré faux, en réalité. Petit à petit, ça, ce sont plutôt, non pas des spécialistes de la parole, des spécialistes des journalistes, ce sont pas eux qui ont parlé, mais c'était quand même des porte-paroles, des gens qui parlaient mieux que d'autres, qui ont donc, en fait, pris la parole. Il y a eu ce glissement qui s'est fait.
Je veux dire que les échecs que j'ai vécu dans Radio Barbe Rouge, je les ai retrouvés dans beaucoup d'activités militantes que j'ai eues à Toulouse aussi. C'est-à-dire une incapacité à définir, à sortir une réflexion spécifique qui soit à la fois pertinente, qui soit pertinente au niveau de la réflexion, mais en prise sur la réalité que vivent les gens, qui accroche les gens. Et puis il y a globalement un état de fait que je ne veux pas définir de façon trop catastrophiste, mais qui est que les gens n'ont pas envie de réfléchir. Donc une radio, soit ça sert à réfléchir, soit ça sert à passer des disques pour s'endormir. Je crois que un des problèmes énormes qu'on a eu à la radio, on a eu aucune réflexion, entre autres sur le travail d'écriture, sur le travail de composition, que ça soit radiophonique, cinématographique, travail d'écriture pur, n'importe quoi. On pensait que parce qu'on mettait un bout de bande avec un autre bout de bande, ça serait bon parce que c'était un morceau de liberté d'expression, quoi, qui sortait tout cru. Or, ça suffit pas.
Pour moi, c'était après la déconfiture de l'histoire de l'extrême gauche organisée, ça a permis d'être un lieu où on rencontrait les gens dynamiques de la ville de Toulouse, de la région, qui étaient aussi bien les gens organisés qu'inorganisés, toute une mouvance. Donc c'était aussi un lieu d'information, de rencontre, où tout se racontait là-dedans. Moi je me rappelle les studios, quand c'était
rue Saint-Rome, il y avait bien 50 à 100 personnes qui venaient au moment où l'émission se faisait avec une personne qui parlait. L'écoute collective, à l'arrière, elle se faisait là. La radio, elle participait en elle-même, elle n'était pas que radio, en elle-même, elle participait au mouvement. Et tous les mouvements aussi se retrouvaient à l'intérieur de la radio.
Par contre, s'il n'y avait pas de projet, il y avait un enjeu. Ça, c'était quand même quelque chose qui était discuté par personne, qui était que la libération des ondes, ça serait quelque chose de mieux, automatiquement. S'est passé dans la nuit du 3 mai 81 et dans la même nuit trois locaux ont été incendiés, le nôtre qui se trouvait rue Saint-Rome, le local de la Ligue qui se trouvait là où se trouve le local de la Ligue et l'imprimerie 34 qui se trouvait encore rue des Blanchets, ce qui a permis à la dame du dessus de faire encore un infarctus comme elle faisait à chaque fois qu'il y avait un attentat. Et bon, ça a vraiment été un attentat très méchant. Ça a été revendiqué la mangouste. C'est un groupe d'extrême droite. Il y a des ondis qui disent que c'est un groupe d'extrême droite composé de flics, quoi. Maintenant, moi, j'en sais rien.
Quelques jours après l'explosion du local de Barbe Rouge, le 10 mai 81, place du Capitole.
Monsieur le Président,
c'est la victoire! Jean Daniel, conseiller municipal, ancien président des élus socialistes, c'est la victoire pour la liberté, pour la France unie, pour l'égalité de tous. On vient de prouver que Toulouse était restée une ville de gauche et était prêt, avec tous les citoyens de Toulouse et avec tous les immigrés, avec tous les malheureux, à se battre pour accompagner le président pour la plus grande justice sociale, dans le calme et pour une France unie.
On n'a pas vu venir à leur réelle importance la mainmise du capital de la communication sur les radios. Et à travers cet enjeu que nous on pensait être strictement un enjeu de liberté d'opinion, de liberté de communication, on n'a absolument pas vu que nous on faisait le boulot pour les grandes boîtes financières qui maîtrisent la communication. Ça, je crois qu'on a eu un aveuglement total sur ce que ça pouvait devenir.
Le grand marché du monde. La foire-fouille.
Leclerc. Energy.
pour ça, puce adorée avec de gros bisous.
Parle-t-on tout lui dire.
En football, Bordeaux compte toujours 4 points d'avance.
Plus 22 pour Jason Donovan.
Texas en tournée.
Barbe rouge est légalisée en 81, quelques mois après l'élection de François Mitterrand.
D'une lune contre le monopole, ce qui a changé, c'est que là, il fallait, après, une fois que ce monopole est tombé, il fallait mettre en place, en fait, ce pourquoi on se battait. Et là, c'était le plus dur. C'est-à-dire de toutes ces idées qui étaient nées, c'est-à-dire faire une radio différente, casser la division du travail, parler de la vie, parler du quotidien, parler des luttes d'une autre manière, parler de la musique d'une autre manière, etc. Qui était très difficile avant 80 parce qu'on était brouillé, parce qu'il fallait jongler avec la police, parce qu'on avait un matériel qui n'était pas très adéquat à ça, quoi, qui n'était pas trop performant. Après, on pouvait avoir ce matériel, mais qu'est-ce qu'on allait faire avec ça? Alors il y a eu, l'été 81, en fait, il y a eu tout un débat sur quel type de radio nous allons construire, en gros, avec une forte proportion de gens qui appuyaient sur l'institutionnalisation de la radio, qui se traduit par exemple sur le nom. Barbe rouge, c'était une période, ça fait plus sérieux maintenant. On va choisir un nom sérieux, un nom institutionnel, c'est devenu donc Canal Sud.
C'est significatif, il ne s'agissait pas simplement d'une question de nom, il s'agissait de passer de l'état d'une radio pirate à l'état d'une radio libre, mais apparemment il est beaucoup plus facile d'être une radio pirate qu'une radio libre. La lutte, ça se gère, la liberté, plus difficilement.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
ladies and gentlemen,
bonjour. Canal Sud vous propose tous les soirs, pour les petits, les grands, les jeunes et les moins jeunes,
un spectacle exceptionnel.
Des informations et des dossiers dans un numéro hallucinant de jonglage avec l'actualité.
Du rire, de la passion avec les phénomènes du grand délire.
Le fantastique, l'illusion, l'imaginaire et le réel de Ligne de Fuite.
Les sauts périlleux, les petits et les grands exploits dans notre café des sports.
N'oublions pas aussi la vie de quartier et bien sûr de la musique, beaucoup de musique pour tous les goûts.
Canal Sud, une représentation tous les soirs de 18h30 à 22h sur 88,8 MHz.
À partir du moment où c'est devenu une radio légale qui devait exister, on s'est vite aperçu qu'on devait se battre contre d'autres radios. Peut-être pas avec les mêmes armes parce qu'on ne disait pas la même chose, mais le problème du financement est rapidement apparu. Le problème de l'écoute aussi. C'est-à-dire que petit à petit, les problèmes d'une radio. C'est-à-dire que les gens sont passés du problème d'une lutte au problème d'une radio. Voilà. Donc il y a eu de gros débats sur la publicité, sur le financement, sur les participations, et puis sur les émissions qui étaient ou non politiques ou pas. Enfin, il y a des débats comme ça. Mais le passage de la radio associative, de la radio de lutte à la radio associative, c'est le passage d'une mentalité de résistance à une mentalité d'existence.
Ces radios associatives n'ont pas trouvé et n'ont pas théorisé leur spécificité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ces radios sont différentes? Je crois que ces radios n'ont jamais réussi à montrer quelle était leur différence, n'ont jamais théorisé dans la forme et dans le fond. dans la façon de faire ce qui faisait leur différence. Ça, elles n'ont jamais réussi. Et je crois qu'elles n'en ont jamais réellement eu la volonté. Donc je pense que ça, ça a été un handicap. Elles n'ont pas cherché à se débarrasser des modèles qui les entourent. Et puis, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion sur « tu fais de la radio, mais ça ne veut rien dire faire de la radio. » C'est « tu fais comment ?» Tu fais parler les gens comment ? Comment tu vas monter un reportage ? Comment tu vas monter une interview ? Quelqu'un qui te cause ? Comment tu vas retransmettre sa subjectivité sur l'antenne ? C'est-à-dire, ce qui compte, c'est pas forcément que le message, c'est pas la synthèse d'un message en trois mots, c'est aussi la manière de dire des gens. Et je crois que ce qui passe à la radio, quand tu... un peu ce mot-là, des pauses musicales pour que les gens ne s'emmerdent pas derrière leur poste de radio, c'est tous ces trucs-là qui n'ont jamais été réfléchis en fait.
Je crois que Transmirail Express a été une des dernières tentatives de radio non radio quoi. Et petit à petit et assez rapidement d'ailleurs, Transmurail Express est devenu l'émission phare de Canal Sud. Alors au départ, c'était un gars qui était enfermé à Saint-Michel pour une raison quelconque, et ses copains se sont retrouvés dans les heures creuses de la programmation, parce qu'il y en avait pas mal, pour lui dire bonjour, pour lui raconter des choses, tout ça. Et ensuite il est sorti, et on s'est dit qu'au lieu de cesser, on allait faire une émission qui s'adresserait non pas à une seule personne, mais à toutes les personnes qui étaient enfermées à Saint-Michel. Et c'est devenu Transmurail Express.
Bon, on a fait quelques tracts et affiches pour annoncer l'émission, puis ça a pris comme une sorte de feu de paille quoi, à l'intérieur des deux prisons de la région. Le plus important, je crois, c'était surtout pour les gens de l'intérieur d'arriver à faire sortir une parole et puis ils croyaient qu'il y avait à l'extérieur des milliers de gens qui écoutaient la radio. Bon, nous, on leur disait que c'était pas vrai, mais enfin, pour eux, le plus important, c'était ça, c'était d'arriver à faire, d'avoir un relais extérieur. Et donc, ils avaient la sensation que, effectivement, leur information, leur parole sortait. Beaucoup de détenus ont compris quand même la possibilité qu'ils avaient avec un outil comme ça. Ils l'ont utilisé, plus ou moins bien. Bon, nous, en gros, c'était le but principal, en fait, très vite, c'était ça. Ça a été leur donner, être le relais, quoi. Leur donner cet outil qu'ils puissent l'utiliser. Bon, donc, la plupart du temps, on lisait donc des lettres de détenus. L'émission, elle a eu, je pense, d'énormes conséquences. Hein. Des conséquences positives, il y en a eu parce que ça a été une histoire très vivante pour nous et pour les gens de l'intérieur qui avaient l'impression de revivre. Il y avait des gars qui venaient faire 20 ans dedans. Bon, ils se trouvaient confrontés à des gens qui parlaient de la prison dans un monde complètement hostile. C'était un truc très important pour eux au niveau de l'effet de la radio. Par contre, je pense que trois ans après, ou quatre ans après, je sais pas combien, avec l'analyse, on se rend compte qu'on a été hyper utilisé par l'administration pénitentiaire, quoi. C'est-à-dire que ils avaient autant d'infos que ceux que nous on pouvait amener par la radio. L'administration pénitentiaire recevait autant d'infos que les détenus. Et de ce fait, ils pouvaient repérer les meneurs, repérer les gens qui avaient des vilités de révolte, qui avaient envie d'écrire, qui avaient des contacts. Bon, et donc ils pouvaient faire leur répression beaucoup mieux, quoi.
On rattrape tout de suite avec un coup de fil à l'antenne.
Allô ? Je passe là ?
Ouais, ça y est, tu passes.
Allô ?
Oui.
Allô,
oui ? Oui.
Vous êtes sur l'antenne, allez-y.
Oui, bon, mais écoutez, voilà, alors, je n'ose pas me présenter, je n'ose pas donner de nom, hein, bien sûr.
Oui.
Comme je vous disais tout à l'heure, je suis tout simplement un homme libre, complètement libre, mais je suis un visiteur de prison. Alors, un visiteur de prison, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un homme libre comme moi, qui a un métier à l'extérieur, qui a une famille. et qui se rend régulièrement en prison. Il faudrait que votre émission soit exactement le reflet de la réalité. C'est-à-dire que vous adressiez, mais je veux bien que vous adressiez aux détenus. C'est vrai que c'est leur émission à eux. C'est vrai que par votre émission, c'est eux qui parlent. Mais il ne faut pas oublier que vous adressez au public. Et c'est ça que je souhaite. C'est surtout que le public écoute. Et que le public sache ce que c'est que la prison Saint-Michel. Moi, j'ai vu la prison Saint-Michel, écoutez, entre deux quartiers, c'est simple, entre deux quartiers, vous voyez, quand vous passez autour de la... Entre deux quartiers, vous voyez des pâtes, vous voyez des morceaux de patates qui traînent devant les fenêtres. Mmh. Bon, ça veut tout dire, ça. Quand vous voyez ça, il y a les moineaux qui sont en train de bouffer, là. Ça veut tout dire, ça.
Oui, moi je tiens à préciser un truc, c'est que ceux qui sont le mieux nourris à Saint-Michel, c'est les pigeons, les rats et un faucon, parce qu'on a remarqué qu'il y a un faucon qui arrive à bouffer les pigeons. C'est eux qui sont le mieux nourris, parce que la bouffe est tellement dégueulasse qu'on la jette par la fenêtre.
Le chat. Bon, mais je pense
que le chat, qui est énorme, c'est le chat du directeur.
Tu pourrais peut-être, si tu veux, comme tu avais commencé tout à l'heure, nous donner des informations sur, sur l'émission, comment elle était prise et comment toi tu la prenais, ou ce que tu en avais entendu dire.
Bon, oui, bien sûr, c'est bien sûr par les détenus que j'ai appris que vous existiez. Alors, bien sûr, ça fait un grand boom, on parle des détenus, on m'a demandé de vous téléphoner déjà, mais comme je disais aussi, j'étais un peu pas gêné, mais enfin, j'étais pas bien dans mon assiette pour vous appeler. Bon, ce soir, c'est la lettre de Philippe qui est obligé de confirmer ce qu'il a dit, de faire attention à de votre façon de présenter tout ça, hein, je le redis. C'est très bien accepté par les détenus, bien sûr. Mais je répète, vous employez le langage des détenus, ce qu'on entend dans les couloirs, c'est adressé aux détenus dans ce cas-là. Alors que je souhaiterais, enfin moi personnellement, je préférerais que vous adressiez au public. Bon, il y a aussi un autre phénomène, il n'y a pas que les détenus qui écoutent l'émission, il y a aussi tout le personnel administratif, et je pense avant tout à Saint-Michel. Je pense que les surveillants qui écoutent votre émission, eh bien, qu'est-ce que vous voulez, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on soit un peu plus fouillé la prochaine fois pour rentrer. Vous voyez ce que je veux dire ?
Canal Sud était en instance de dérogation. Et il y avait donc des plaintes contre Canal Sud, en fait contre Transmurée Express, mais bon, comme ils ne pouvaient pas porter plainte contre l'émission, ils portaient plainte contre le bureau de Canal Sud. Et il y avait des discussions avec ces sages-là, donc à Paris, et effectivement, sur la table était sous-entendu que s'il y avait certaines émissions qui arrêtaient à Canal Sud, ce serait peut-être plus facile d'obtenir la dérogation et le fric qui vient avec, quoi.
Accusé, levez-vous. Levez l'antenne droite et dites, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Je jure de la mienne haute autorité.
Âge, nom des parents.
Je suis né en juin 81 et ma mère, Radio Barberouge, qu'elle s'appelait, elle m'a porté contre vents et marées pendant 4 ans. C'est-à-dire que c'était de 77 à 81. En tout, ça me fait donc 7 ans et demi, madame la rente.
Quelque chose à rajouter ?
Oui, je voudrais dire que je croyais que je pourrais enfin me vivre tranquillement, mais je crois que je me suis trompée.
Taisez-vous ! Pas de discours ici. Vous êtes condamné au silence à perpétuité. Suivant.
À l'abordage, le pirate !
Les quatre membres du bureau de Canal Sud jamais fait de pression à nous pour arrêter. Ils ont plus ou moins suivi l'émission, quoi, ou été d'accord avec le déroulement de l'émission. Et si on s'arrêtait, c'est dû à l'essoufflement complètement, quoi.
En 86, une équipe de Skyrock en quête d'une fréquence sur la ville de Toulouse vient proposer à Canal Sud de lui racheter la sienne. Deux animateurs de Canal Sud rentrent dans leur jeu et enregistrent à leur insu la conversation.
Moi je suis trésorier de l'association Canal Sud. Lui il est au bureau de Canal Sud.
Ouais.
Donc je sais pas si vous venez d'une radio particulière ou d'un réseau particulier.
On envisage de monter un réseau par ici.
C'est-à-dire vous envisagez de monter un réseau, mais de quel style, non ?
franchise.
Oui, mais c'est lequel? Enfin, on peut le savoir, mais c'est pas possible. Non, oh, c'est pas possible.
De toute façon, il ne reste pas beaucoup sur la place. Vous pouvez imaginer lequel c'est.
C'est lequel?
C'est le plus cher.
Est-ce que vous voulez pas dire qui vous êtes?
Oh, il manque qui
c'est... Non, parce que c'est pas... C'est
ouais. Il y a tous les réseaux, quasiment.
Tous les réseaux.
Oui,
d'accord. Un peu gros, quoi.
Ouais.
Je vois.
Le Skyrock, quoi.
Voilà.
Alors après, vous pourrez voir quoi, ce que vous nous proposez, vous. C'est ça.
Oui, c'est par rapport aussi à vos, à vos besoins. Bon, de toute façon, le problème, c'est qu'une fréquence, bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la fréquence, c'est pas bon, le matériel, évidemment, ça ne nous intéresse pas particulièrement. Bon, de toute façon, le problème, c'est que la fréquence, c'est quand tu as le droit de l'acheter.
Oui,
de toute façon. Alors, donc, il faut trouver un billet juridique, qui soit ou la vente du matériel, peut-être. Vous pensez combien de...
On a deux propositions, quoi. La première proposition, ce serait de garder un créneau d'émission de quelques heures par jour ou par semaine, où on puisse dire ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on veut.
Oui, oui, non, mais...
Enfin, bon. Bah, vous insultez quand même.
Non, non, mais de toute façon, le problème, c'est que nous, bon, on a besoin d'une fréquence totalement libre. Parce
totalement,
que,
non, c'est-à-dire, oui, vous totalement. Avez besoin, vous voulez pas négocier sur un truc comme ça, quoi.
Non, non, de parole, non.
Une heure ou deux par...
Vous avez commencé les franchises. Bon,
par un jour. Hein.
C'est satellisé et il n'y aura absolument rien de...
Tout arrive.
Oui, mais en fait, il faudrait quand même des journaux.
Non, aucune intervention, si ce n'est publicitaire, sur l'antenne. Et bon, des annonces, mais pas de... Non, il y avait une...
Je sais pas, nous, on avait fixé un chiffre qui était aux alentours de 1 million de francs. Mais négociable, bien sûr.
Oui, mais 1 million de francs, il faut le justifier, vous comprenez?
Ouais.
par quelque chose.
Par le fait que c'est une fréquence à Toulouse et que c'est...
Oui, mais c'est interdit de vendre les fréquences.
Oui,
alors comment justifier 1 million de francs si vous avez que... bon, je sais pas, mais vous devez avoir 100 000 francs de matériel. Un émetteur de 100 watts.
Mais quand on dit 100 watts...
Oui, mais de toute façon...
Un petit peu plus. Hein.
Oui, mais c'est pas 100 watts pour une radio qui se veut commerciale, c'est inenvisageable, ça sert à rien.
Au niveau de la CNCL, vous croyez qu'ils vont donner là, au réseau, dans toutes les villes, c'est pour. Hein.
Comment?
Je veux dire qu'ils vont redonner bon, au réseau, qu'ils vont leur donner les autorisations à chaque ville.
Oui.
Ouais.
Bien sûr, maintenant c'est pas... C'est
annoncé là, quoi.
Vous avez vu qu'il y a tous les réseaux qui sont associés au niveau parisien pour monter... il y a les 10 plus gros réseaux qui sont associés pour faire poids sur pour s'engager solidairement à ce que toutes leurs stations aient des agréments et tout ça. Bon, je pense que c'est pas... À ce niveau-là, c'est foutu.
Le juriste, évidemment, ne peut qu'être choqué, mais ces pratiques, hélas, sont connues. C'est pas véritablement surprenant, c'est pas véritablement une nouvelle. Ce qui est intéressant, là, c'est en quelque sorte le direct de la négociation qui montre par parenthèse que ce sont des curieux grands professionnels puisqu'ils se font piéger, ils se font interviewer sans véritablement s'en rendre compte. Pour le reste, nous sommes effectivement dans une situation totalement aberrante du point de vue du droit, c'est que comme le dit l'interlocuteur, donc qui le sait parfaitement, les fréquences sont incessibles, il y a interdiction totale évidemment d'en disposer, quelles que soient les modalités de la disposition, et notamment évidemment interdiction de les négocier, de les vendre, dont nous sommes typiquement dans une situation hors la loi, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir des sanctions, et pourtant à Paris et dans la plupart des grandes villes de France, les grands réseaux ont agi en totale impunité, alors même que la loi continuait de prohiber, d'interdire les réseaux. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des semaines, des mois et des années, toutes les dispositions réglementaires de la loi ont été violées par la pratique. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait appeler les acteurs de l'économie audiovisuelle, les opérateurs privés, ont violé de manière systématique et parfaitement consciente les dispositions légales. À telle enseigne que Le gouvernement a reculé, puisque une nouvelle loi a été prise en décembre 1984. Et cette loi de 1984, que fait-elle ? Ben, au lieu de sanctionner, en fait, ceux qui ne respectaient pas la loi, elle aligne, en réalité, la loi sur les comportements de fait. C'est-à-dire qu'elle dit que désormais, on peut avoir recours à la publicité, que les radios n'ont pas nécessairement une structure associative, mais qu'elles peuvent adopter la forme juridique de société commerciale, de droit privé, etc., etc. Et donc, lorsqu'on arrive à la loi Léotard du 30 septembre 86, en réalité, de toutes les dispositions dont on vient de parler, il n'en restait plus qu'une, qui est la prohibition des réseaux. C'est-à-dire que certes, on peut faire de la publicité, certes, on peut être des sociétés commerciales, etc., etc., mais la seule limite, c'était les réseaux. Or, bon, on a commencé par là. Cette dernière limite de l'interdiction des réseaux, elle-même volée en éclat, n'a plus aucune signification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule des dispositions législatives initiales qui a tenu le choc. Ce qui fait qu'en fait, il reste simplement l'ouverture au privé. Et là, on peut penser en effet qu'il y a eu un total divorce entre les intentions proclamées et ce à quoi on a abouti. Je pense que initialement, la logique du gouvernement socialiste, entre guillemets en tout cas, a été finalement empreinte d'une très grande naïveté, d'un très grand angélisme. Un certain nombre de parlementaires avaient mis en fait en garde dès l'origine. Je me rappelle que pendant la discussion à l'Assemblée nationale de la loi de 82, un certain nombre de parlementaires avaient évoqué les radios libres, dites des radios de proximité, les radios associatives, etc., de jeunes. Etc., de gentils poissons pilotes qui se rendent pas compte qu'en fait ils vont dans une logique où ils vont se faire bouffer immédiatement par les grands squales carnassiers, encore une fois, qui sont déjà en place.
En 83, plusieurs radios associatives parisiennes sont saisies. Radio IC maintenant enregistre par téléphone la saisie de l'une d'entre elles, Radio Voca.
Vous êtes à l'antenne, est-ce que vous m'entendez ?
Je suis plus à Voca là. Sans Voca, gardez sans Voca faire parce que là, pour nous presque peut même payer par faille en haut. Alors, vencez quand on fait parce que je peux hésiter en haut.
Radio Voca, là, pour l'instant, il parle en créole.
Je comprends.
Ah bon ?
Vous êtes sur l'antenne.
Oui, et il y a les flics qui sont venus chez nous, là. Et on est en train de résister, ils ont envoyé du gaz lacrymogène, mais on est toujours là-dedans. Hein.
Ils n'ont pas réussi à vous prendre encore.
Non, ils n'ont pas réussi à rentrer.
Est-ce qu'ils ont coupé l'antenne ?
Je pense, oui.
Vous n'émettez plus ?
Et je crois qu'il y a du monde là-haut, là, mais on est là-dedans. On est dans la radio.
Et vous êtes enfermé ?
On est enfermé là-dedans.
Et vous comptez pas sortir ? Vous comptez pas vous rendre ?
Pas du tout.
Vous attendez qu'ils viennent vous déloger avec plus de puissance ?
Ils ont envoyé de la gaz lacrymogène ou ça, mais on vient là-dedans, on a des masques et tout.
Bon, vous n'avez plus d'émetteur là pour l'instant. Vous n'émettez plus pour l'instant. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'antenne ?
Oui, mais attendez, je vous lance, là, parce que je suis en train de briser là. Le gaz lacrymogène, attendez, je vous quitte.
Et ne raccrochez pas. Il semble-t-il, ils essayent de défoncer en ce moment donc les portes. Radio Voca en direct, 6h45. 28 août 83.
Ici et maintenant, 99.
93.4. Alors là, il va encore se passer quelque chose. On est littéralement débordé d'appels. Oui. Et il y a entre autres qui souhaiteraient intervenir de manière assez rapide. Roland de Radio Mouvance qui sort de l'APJ.
Ça va. On vient de m'en relâcher. Il y a à peu près une bonne demi-heure. Et ils n'ont pas exécuté le 10e de la liste qu'il y avait sur la commission rogatoire. Donc ils étaient tous, ils donnaient un sentiment à travers les réflexions qu'il y avait, les questions que j'aurais posées et tout, ils donnaient un sentiment d'être dans une affaire merdique politique où le commissaire de la Goutte d'Or m'a dit textuellement « la gauche fait notre travail ». Le juge Louis Zamponi m'a dit une phrase, quelque chose, on va continuer à vous courir après jusqu'à temps que ça se relâche. Ils avaient vraiment envie de me voir partir le plus rapidement possible.
Je crois en effet qu'il est parfaitement exclu aujourd'hui, et on le voit bien tous les jours de toute façon, puisque le droit continue d'être violé, qu'une telle opération soit organisée à l'encontre de Skyrock, d'Énergie, de Nostalgie ou de quelques grands réseaux de ce type-là. Par contre, je crois qu'en effet, des petits contrevenants qui émettraient sans autorisation et qui créeraient une perturbation dans à l'égard des fréquences légalement autorisées de grands groupes, eux, pourraient être sanctionnés. Mais alors, évidemment, il n'y a pas de contradiction avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'on est à nouveau dans le cadre des rapports de force. Et c'est tout le problème, de manière générale, de la répression. C'est le risque, c'est un peu la sacralisation, ouais, la consécration du droit du plus fort, ou en tout cas de la prédication sélective du droit.
Altitude, la musique de votre vie.
Écoutez, c'est tellement fantastique.
Cœur de loup.
Eh bien, bravo, monsieur Krasuki.
Bon.
Voyez qu'on se marre.
Vivre en France.
Ah oui.
Est-ce que vous pensez que le secteur associatif au niveau des radios est un terrain propice à la recherche et au travail sur une autre conception du média et de l'info ?
Il y a la forme juridique ou la forme d'association qui, au départ, effectivement, il est important, c'est un point de démarcation entre des radios, mais d'autres entreprises humaines aussi. Est-ce qu'on fait les choses pour de l'argent, par exemple, ou pour informer réellement, sans forcément tirer un maximum de profit de cette opération? Je crois que vous êtes dans cette situation, d'ailleurs. Il est certain que c'est une démarcation, puisque si on veut tirer profit de ce qu'on fait, de l'information ou de la culture en général, bien entendu, on va s'aligner sur des critères de financement et les intérêts qui sont liés. Par exemple, aujourd'hui, les critères publicitaires. Et donc, combien de radios qui, au départ, étaient indépendantes, sont devenues des radios musicales qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux radios auxquelles elles s'opposaient au départ? Vous en connaissez, comme moi, beaucoup. Justement, cet exemple, cette transformation de radio indépendante en radio dépendante nous montre que on ne fait du nouveau que dans la mesure où on est capable de critiquer ce à quoi on s'oppose de façon systématique. Et pour l'information, il faut, pour faire une radio différente, partir d'une conception de l'information qui soit différente de celle utilisée par les radios autres.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est viable d'avoir un tel projet ?
Ben oui, puisqu'il y a une demande incontestablement dans le public. Il y a une demande permanente dans le public, c'est de comprendre le monde. Ça, même les enquêtes sur les spectateurs de cinéma qui ont été faites montrent que les gens veulent à la fois s'évader en allant au cinéma, mais veulent aussi comprendre le monde. Donc l'information devrait aider à comprendre le monde. Et il faut répondre à ce besoin, puisque l'information telle qu'elle est pratiquée par les radios dominantes et par les télévisions dominantes obscurcit la réalité du monde davantage qu'elle ne l'éclaire. Donc il y a vraiment un créneau, si je puis parler en termes commerciaux, considérable qui s'ouvre devant une conception exigeante de l'information. Vous ne croyez pas ?